Alors ce matin, pour la prédication, j'aimerais qu'on mène une petite enquête ensemble sur un texte beau, poétique, un peu mystérieux, et qui va nous plonger dans, en fait, finalement, le mystère de Dieu lui-même. Alors cette petite enquête, on va la mener à partir d'un texte du livre des Proverbes, au chapitre 8, les versets 22 à 36. Ici, c'est la sagesse qui nous parle. Et voici ce qu'elle a à nous dire. Or, l'Éternel me possédait tout au début de son activité et avant d'entreprendre les plus anciennes de ses œuvres. J'ai été établi dès les temps éternels, bien avant que la terre fût créée. J'ai été enfanté avant que l'océan existe et avant que les sources aient fait jaillir leurs eaux surabondantes. Avant que les montagnes aient été établies, avant que les collines soient apparues, j'ai été enfanté. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes, ni le premier grain de poussière de l'univers. Mais moi, j'étais là. J'étais déjà là quand il fixa le ciel et qu'il traça un cercle autour de la surface du grand abîme. Et quand il condensa les nuages d'en haut, quand il fit jaillir avec force les sources de l'abîme, et quand il assigna à la mer des limites pour que ses eaux ne les franchissent pas, quand il détermina les fondements du monde, j'étais à ses côtés, comme son maître d'œuvre. Sans cesse, objet de ses délices, je dansais devant lui jour après jour, jouant sur la surface de la terre, je trouvais mes délices dans les êtres humains. Maintenant donc, mes fils, écoutez-moi. Heureux tous ceux qui suivent les voies que je prescris. Écoutez mes leçons et vous deviendrez sages. Ne les négligez pas. Car heureux l'homme qui m'écoute, qui vient veiller à mes portes jour après jour et qui monte la garde devant l'entrée de ma maison. Car celui qui me trouve a découvert la vie. Il obtient la faveur de l'Éternel. Mais il se fait tort à lui-même. Celui qui me désobéit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alors on va mener un petit peu notre petite enquête sur ce texte, parce que ce texte, c'est visiblement un discours. Et ce discours, c'est celui de la sagesse. Là, on l'a pas lu, c'est parce que le texte commence dès le verset 1 du chapitre 8, où on nous dit « Écoutez, la sagesse appelle ». C'est le discours de la sagesse. On sait pas encore ce que c'est, cette sagesse, mais en tout cas, dans ce texte, elle nous parle. Alors elle nous raconte sa vie, elle nous raconte d'où elle vient, elle nous raconte quels sont ses passe-temps. D'ailleurs, elle a quand même des passe-temps assez curieux, cette sagesse, comme créer la terre, jouer avec Dieu, jouer avec les hommes. Cette sagesse nous parle, et visiblement, elle s'épanouit dans tout ce qu'elle fait. Mais une question se pose quand même. Qu'est-ce que c'est que cette sagesse? Alors la sagesse d'habitude, pour nous, c'est quoi? C'est une qualité, comme l'intelligence ou la bêtise, qui serait un peu l'opposé. Une qualité, ça s'exprime au travers d'une personne. Une qualité, ça n'existe pas en tant que telle. Ça s'exprime au travers de quelqu'un. On peut pas dire, ce matin, j'ai vu l'intelligence et je me suis disputé avec la bêtise. Ça, c'est pas possible. Ça veut rien dire. Une qualité, ça ne parle pas. Mais dans ce texte, la sagesse nous parle. Déjà, c'est quand même un peu bizarre. Et mieux encore, elle fait pas que parler. Elle nous dit qu'elle se tient à côté de Dieu, qu'elle joue avec Dieu, qu'elle joue dans le monde, qu'elle se promène parmi les humains. Elle fait pas que parler. Elle joue, elle agit, elle crée, elle se balade. Manifestement, cette sagesse, ici, c'est pas une qualité, quelque chose d'abstrait. Non, cette sagesse ressemble bien plus à une personne qu'à une qualité. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc la question qu'il faut qu'on se pose ce matin, c'est peut-être pas qu'est-ce qu'elle est, cette sagesse, mais qui est-elle? Alors on va commencer par faire cette petite enquête ensemble pour essayer de découvrir qui est-ce qui nous parle dans ce texte. Le livre des Proverbes contient en fait d'autres discours de la sagesse. La sagesse aime bien parler dans ce livre des Proverbes, et elle a notamment des discours dans les chapitres 1, 8 et 9. Nous, on a lu une partie de son discours du chapitre 8. Et dans tous ces passages, la sagesse nous parle d'elle-même. Alors, on va pas tout lire, donc j'ai fait un petit condensé de ce qu'elle nous dit à son sujet, cette sagesse. Alors, elle nous dit que la rechercher, c'est rechercher Dieu. Elle nous appelle. Elle ne dit que ce qui est vrai et juste. Elle est plus précieuse que l'or. À elle sont l'intelligence et la force. L'intelligence et la force lui appartiennent. Elle est à l'œuvre dans la création aux côtés de Dieu. Elle joue avec Dieu. Elle est la crainte du Seigneur. Et la trouver, c'est trouver la vie. La sagesse de ce texte, qui est finalement une personne, c'est notre première conclusion, ça semble pas être n'importe qui. Elle participe à la création, elle détient la vérité et la justice, elle appelle les hommes et elle donne la vie. On a l'impression que la sagesse, ici, ça serait peut-être finalement Dieu en personne. Parce que c'est Dieu qui donne la vie, personne d'autre. C'est Dieu qui détient la vérité et la justice, personne d'autre. C'est Dieu qui crée toute chose. On a l'impression que la sagesse ici, c'est Dieu, et pourtant elle nous dit qu'elle se tient à côté de Dieu, qu'elle joue avec Dieu. On comprend alors finalement que ce texte nous plonge dans le mystère de Dieu lui-même. Dieu qui est le Dieu unique, il n'en existe pas d'autre, mais qui est aussi pluriel, Père, Fils et Saint-Esprit. Et par ça, cette sagesse nous montre déjà une première chose sur ce Dieu si mystérieux, c'est que c'est pas un Dieu solitaire, c'est un Dieu de relation. En effet, ce texte nous dit que même avant la création du monde, Dieu n'était pas seul, il était avec lui-même. Il était en relation avec lui-même, dans une relation parfaite. Dieu le Père en relation avec la sagesse personnifiée ici, on ne sait pas encore lequel est-ce, est-ce que c'est le Fils, est-ce que c'est l'Esprit, on ne sait pas encore qui c'est, on le verra plus tard, mais cette relation se retrouve même dans la création où Dieu et la sagesse créent ensemble. Dieu est le Créateur, la sagesse est son maître d'œuvre, nous dit notre texte. Ils jouent, ils s'amusent ensemble en créant. Vous savez, j'ai bien souvent entendu des croyants me poser cette question. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Pourquoi? Pourquoi avoir créé le monde? Pourquoi avoir créé les humains? Surtout quand on voit ce qu'on est devenu, en fait. Et souvent, les gens, quand je leur dis, à ton avis, le premier truc qu'ils me disent, c'est peut-être qu'ils s'ennuyaient. Peut-être qu'il s'ennuyait et qu'il a voulu donner son amour à des gens et qu'il a voulu parce qu'il est un peu tout seul. Eh bien, ce texte nous montre que non. Dieu ne s'ennuyait pas parce qu'il n'était pas tout seul. Il était avec lui-même. Dieu est unique, mais il est trois en même temps. Je sais, c'est pas très mathématique. Ça peut nous faire bizarre. Et pourtant, c'est ce que nous dit la Bible. Et depuis toujours, Dieu vit une relation. Une relation de joie, d'amour et de paix avec lui-même. Depuis toujours, Dieu est en relation. Il ne s'ennuyait pas. Déjà, c'est pas pour ça qu'il nous a créés. Mais le plus incroyable dans notre texte, c'est que Dieu nous invite à intégrer cette relation parfaite. Dans notre texte, la sagesse nous dit qu'elle trouvait ses délices parmi les hommes, qu'elle appelle les hommes. Elle veut que nous venions à elle, que nous venions à Dieu. Dieu est un Dieu d'amour et de relation, et il invite les hommes à partager cet amour et cette relation avec lui. Quand je lis ce texte, quand je pense à ce merveilleux amour qui nous est présenté, auquel nous sommes invités, cette si belle invitation, ça donne envie de louer Dieu quand même, en premier lieu, de lui dire merci, de lui exprimer notre joie. Dieu vit une relation parfaite depuis toujours, et pour toujours, il m'invite à vivre cette relation avec lui. Amen. Merci Seigneur. Et moi, ça me fait penser à un cantique en particulier. Alors, un cantique pas très récent du tout. Je sais pas de quand il date d'ailleurs. Et ce cantique, en fait, va venir rythmer notre prédication. Il y a 4 strophes, et ben, on le lira en 4 fois au fur et à mesure de la prédication. Je trouvais qu'il collait bien avec. Voici le début de ce cantique, qui, je trouve, répond bien à tout ce qu'on vient de voir pour le moment. Que ne puis-je, ô mon Dieu, Dieu de ma délivrance, remplir de ta louange et la terre et les cieux, les prendre pour témoins de ma reconnaissance et dire au monde entier combien je suis heureux. Heureux de cette invitation que le Seigneur nous lance. Alors dans ce texte, la sagesse nous apprend aussi autre chose sur Dieu. On va continuer un petit peu notre enquête. Cette sagesse nous apprend que Dieu est un créateur tout-puissant. Ça paraît peut-être pas nouveau, mais c'est quand même bien à souligner. En effet, la sagesse nous décrit en partie les œuvres grandioses de Dieu dans notre texte. Alors elle nous dit que Dieu met en place les montagnes, elle nous dit que Dieu fait l'immensité de la terre et des campagnes, de même que le minuscule de la poussière. Il installe le ciel et l'horizon infini, il place les nuages, il fixe les limites à la mer. La sagesse nous raconte l'œuvre de Dieu, œuvre à laquelle elle participe, comme si tout ça pour Dieu c'était facile. Elle ne nous parle pas ici de travail dur, pénible, fatigant. Alors, moi, si on me demandait de fabriquer quoi que ce soit, ne serait-ce qu'un truc tout simple comme une chaise, j'avoue que déjà je conseillerais pas forcément de s'asseoir dessus après, et je finirais avec 1 ou 2 coupures, quelques échardes. Je suis pas trop très doué de mes doigts. Pour moi, le travail, la création, c'est fatigant. Et en plus dangereux, pour ma part. Dieu, lui, quand il crée tout depuis la montagne jusqu'à la poussière, et ça a l'air facile. Dieu et la sagesse jouent en créant. Ils s'amusent ensemble, ils essayent de nouvelles formes, de nouvelles couleurs. Tiens, le vert pour l'herbe, le bleu pour le ciel. Ils font des animaux parfois improbables. Ils ont dû se faire un sacré trip le jour où ils ont créé l'ornithorynque. C'est une œuvre de création immense, superbe, merveilleuse, complexe, parfaite, sans erreur, et pourtant, pour Dieu, ça a l'air facile, paisible, joyeux, amusant. Ces images nous appellent quand même à l'humilité, à l'adoration devant la grandeur, la puissance de ce Dieu créateur. Mais ça nous pousse aussi, excusez-moi, à la reconnaissance. Parce que c'est ce Dieu si puissant et si grand qui, je vous le rappelle, ce qu'on a dit au début, nous appelle à vivre une relation d'amour avec lui. Ce Dieu parfait pour qui tout est possible, qui vivait une relation parfaite avec lui-même, qui n'avait besoin de rien, ce Dieu-là nous crée par amour, puis se penche vers nous, pas avec mépris ou dérision. Il en aurait eu le droit, mais il l'a pas fait. Il le fait avec amour, patience et bienveillance. Il nous donne la vie, il pourvoit à nos besoins, et il désire que bien qu'il soit notre Dieu, nous puissions l'appeler notre Père. Ça me fait penser justement à la suite du cantique qu'on a entamé tout à l'heure, et je vous lis la strophe suivante. « Heureux quand je te parle, et que de ma poussière, je fais monter vers toi mon hommage ou mon vœu, avec la liberté d'un fils devant son Père. » Et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu. Un pécheur devant Dieu. Et je vais malheureusement maintenant troubler un petit peu ce magnifique tableau qu'on a dressé jusqu'à maintenant, parce que moi, je crois pas pouvoir répondre à l'invitation de la sagesse. L'invitation que Dieu nous fait ici. La sagesse est bien gentille de m'offrir la possibilité de vivre cette relation parfaite avec Dieu. Mais écoutez ce qu'elle nous dit dans ce texte. Écoutez-moi, gardez mes commandements, devenez sage. Et je fais comment? Je peux pas. Qu'est-ce que je fais de tout? Les mensonges que je me traîne, mon égoïsme, parfois même ma méchanceté, ma colère mal placée. Je peux pas rentrer dans une relation parfaite, pourtant elle m'y invite, mais je peux pas y rentrer parce que tout simplement, je ne suis pas parfait. Et pour vivre une relation parfaite, il faut l'être. Et moi, je le suis pas. Et même si je voulais changer, maintenant, là, ben, je peux pas changer déjà tout ce que j'ai fait auparavant. Il faut pas rêver, j'arriverai pas à devenir parfait. Donc, je peux pas répondre à cette invitation de la sagesse. Et la sagesse le sait. Ne vous inquiétez pas, elle le sait. Dieu le sait. Alors, pourquoi est-ce qu'elle m'invite quand même à vivre quelque chose que je ne peux pas vivre? Eh bien, c'est maintenant de revenir un petit peu à notre enquête, notre question initiale. La sagesse personnifiée de notre texte, qui est-elle? Alors, ça se discute, et je vous avoue que c'est discuté. Mais je trouve que ce que la sagesse raconte ici au sujet d'elle-même ressemble quand même beaucoup à ce que l'apôtre Jean raconte du Christ, qu'il appelle la parole dans l'évangile de Jean au chapitre 1. Et il nous dit que la parole, qui est le Christ, était avec Dieu, elle était Dieu depuis toujours, qu'elle a participé à toute la création, qu'elle est la vie, qu'elle est venue dans le monde et qu'elle appelle à devenir enfant de Dieu. Et donc à l'appeler Père. Ça ressemble quand même beaucoup à ce que nous dit la sagesse d'elle-même dans ce texte. Alors la sagesse personnifiée de notre texte, qui est Dieu sans être Dieu le Père, peut-être en fait qu'elle n'est autre que Dieu le Fils, le Christ Jésus du Nouveau Testament, celui qui est appelé sagesse de Dieu en 1 Corinthiens 1, verset 30. Le Christ qui est Dieu, mais qui pourtant est venu jusqu'à nous, en tant qu'être humain, pour nous parler, nous appeler à lui, nous présenter l'invitation que nous donne la sagesse dans ce texte, nous inviter à vivre cette relation parfaite avec Dieu. Mais le Christ qui sait aussi, comme on l'a rappelé, tout le mal qui est en nous et qui nous empêche de vivre cette relation. Alors Dieu le Fils n'a pas fait que nous inviter, mais il est venu également régler notre problème. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est aussi un Dieu juste, qui n'aime pas le mal, comme notre texte nous le dit au verset 36, mais il se fait du tort à lui-même, celui qui me désobéit, tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Dieu est un Dieu juste, et nous ne le sommes pas. Alors Dieu le Fils est venu payer le prix de nos fautes à notre place. Il est mort sur la croix pour que nous puissions avoir accès à cette vie auprès de Dieu. Et Dieu l'a d'ailleurs ressuscité parce qu'il payait pour nos fautes et pas pour les siennes à lui. On n'avait pas commises. Il restait innocent lui-même. Et Dieu le Fils, mort pour nous puis ressuscité, c'est lui qui nous invite maintenant à le rejoindre, à le suivre et à entrer dans cette vie, à entrer dans cette relation parfaite et éternelle avec Dieu. Et je vais alors continuer le cantique qu'on a déjà entamé par deux fois, avec la troisième strophe. Heureux lorsqu'assailli par l'ange de la chute, prenant la croix pour arme. Excusez-moi. Et l'agneau pour sauveur, ça me rappelle pas mal de choses. Je triomphe à genoux et je sors de cette lutte, vainqueur, mais tout meurtri, mais vainqueur. Au final, c'est un texte qui semblait beau, un peu mystérieux, et on se rend compte qu'en fait, ce texte nous plonge dans le mystère de Dieu lui-même. Mais grâce à ce texte, nous avons appris à mieux connaître justement qui est ce Dieu si mystérieux. Ce Dieu créateur tout-puissant, Dieu le Père, qui nous donne la vie et qui désire nous accueillir au sein de sa relation parfaite. Dieu le Fils, qui nous aime tellement qu'il est venu mourir à notre place pour enlever tout le mal qui nous séparait de l'invitation que Dieu nous a lancée. Et nous pouvons même rajouter Dieu le Saint-Esprit, même si on n'en avait pas encore parlé jusque-là. Dieu le Saint-Esprit qui habite en nous dès le moment où nous acceptons Jésus comme notre Sauveur. C'est également par le Saint-Esprit que nous avons enfin accès, dès maintenant, à cette relation parfaite de vie et d'amour avec Dieu. Cette relation à laquelle nous invitait la sagesse dans notre texte. Alors, j'espère que chacun, nous comprenons que cette invitation de Dieu, elle n'est pas pour quelques élus, elle n'est pas pour les parfaits, elle est au contraire adressée à chacun d'entre nous. Alors j'aimerais vous inviter ce matin particulièrement, tout comme la sagesse a pu le faire dans ce texte, à accepter cette invitation de Dieu. Acceptez votre imperfection, votre injustice. Remettez-les à Dieu, parce que nous, on ne peut rien faire avec ça. Acceptez pour vous-même ce que Jésus-Christ a fait pour vous à la croix. Recevez son pardon. Donnez-lui votre vie. Et entrez alors dans cette relation parfaite à laquelle Dieu invite chacun d'entre nous. Et pour terminer, il reste une dernière strophe à notre cantique. Et je conclurai comme ça. Heureux, toujours heureux, j'ai le Dieu fort pour Père. Pour Frère, Jésus-Christ. Pour Conseil, l'Esprit-Saint. Que peut ôter l'enfer, que peut donner la terre à qui jouit du ciel et du Dieu, trois fois saint. Amen.